France Musique.
Je m'en vais. La mort de Louis XIV. Ce fut un spectacle. Le mot revient sous la plume des courtisans qui assistèrent de près ou de loin aux derniers jours du roi. Le spectacle le plus touchant et le plus admirable, écrit Saint-Simon. L'agonie royale eut son chroniqueur, le marquis de Dangeau, dont le journal, rédigé au jour le jour pendant 36 ans, relate ce qui s'est passé dans la chambre du roi pendant sa maladie. Les scènes ultimes, spectacle en effet, de grande souffrance et de grand courage, qui clôt cette si longue vie. Louis XIV s'est toujours voué tout entier au public, au point de paraître en exhibant son corps physique, associer et confondre en sa royale personne jusqu'à la mort ces deux corps du roi, qui sont l'essence même de la monarchie d'Ancien Régime. Le corps mortel et le corps éternel de la dignité royale, celle qui ne meurt jamais et dont il assume le temps de son règne, la pleine et entière incarnation. Je m'en vais, mais l'état demeurera toujours. Tout commence à un peu plus d'une lieue au nord de Versailles, au château de Marly, tant aimé du vieux roi. Il se plaît à y séjourner. Dans son fauteuil à roues, avec lequel il se conduit partout où il veut aller, poussé par ses porteurs de chaises, il visite ses jardins agrémentés de salles de verdure et de bassins, de statues, de fleurs, de jets d'eau et de cascades. De plus en plus fréquentes et douloureuses, les atteintes de la goutte et le gonflement des jambes ont contraint Louis XIV à réduire chacun de ses déplacements. Habituellement, au cours de ses lentes et longues promenades, Madame de Maintenon se trouve assise dans une chaise à porteur, à côté du petit chariot dans lequel le roi est poussé. Depuis le début des années 1710, le séjour royal à Marly occupe jusqu'au tiers de l'année. Le roi, accompagné de Madame de Maintenon et de quelques privilégiés, aime à y goûter les plaisirs de la vie privée et se délasser des fatigues du gouvernement. Ce premier acte de la maladie royale commence le samedi 10 août et s'achève 14 jours plus tard, quand Guy Crescent Fagon et Georges Maréchal, respectivement premier médecin depuis 1693 et premier chirurgien depuis 1703, découvrent que ce qu'ils prenaient pour une simple sciatique était la gangrène et qu'elle avait déjà entièrement gagné la jambe gauche du roi. 3 semaines durant lesquelles Louis XIV va se soumettre à une lutte sans merci, dépérir au grand jour. Obligé de ruser avec les deux corps qu'il porte en lui, son simple corps malade et douloureux, dont il faut tenter, autant que faire se peut, de masquer les faiblesses, la déliquescence, l'épuisement, pour préserver jusqu'au bout les forces du deuxième corps, le corps parfait de la dignité royale qu'il doit transmettre intact. Le Versailles de Louis XIV est celui d'un roi visible, à la différence de celui de Louis XIII, petit château de cartes. En appliquant scrupuleusement cette règle de visibilité cérémonielle, à la différence encore du roi d'Espagne qui vivait le plus souvent dissimulé dans son impénétrable palais madrilène, Louis XIV vivait constamment sur scène et sa présence en imposait même en son absence. Il s'affaiblissait. Tout le monde le voyait. La nuit du 12 au 13 août, c'était une nouvelle fois très mal passée. Le roi sentait en ses entrailles un feu dévorant. Néanmoins, le matin, au retour de la messe, il tient à respecter le programme prévu ce mardi-là, jour traditionnel de la réception des ambassadeurs. En l'occurrence, l'audience de congé accordée à l'émissaire de Perse, Mehmed Reza Beg. Louis XIV veut faire belle figure. Le corps de l'État ne peut connaître de répit. Le roi fait appeler les ministres pour le Conseil des Finances et ne se couche pas. Il dîne comme à son ordinaire, travaille encore chez le chancelier, puis il se fait porter chez Madame de Maintenon, où il y eut petite musique. Le jeudi 15 août, fête de l'Assomption de la Vierge, Louis XIV s'impose d'être porté en chaise jusqu'à la tribune de la chapelle royale, où il entend la messe avec une piété édifiante. La vue du monarque cause alors une grande surprise et sa présence inattendue provoque des cris. Vive le roi ! Que Dieu nous le conserve ! On imagine la solitude publique de ce corps souffrant au milieu de la curiosité insatiable des regards avides, alors qu'une conspiration du silence entourait le roi pour lui dissimuler son véritable état. Seul Fagon, le premier médecin, ne veut pas en convenir. Les mots du prince sont à ses yeux des prétextes imaginaires. Ce dernier jouit alors d'une grande réputation, celle d'un des beaux et des grands esprits de l'Europe. Grand botaniste, bon chimiste, habile connaisseur en chirurgie, excellent docteur et grand praticien. Reste qu'il interprète mal la dernière maladie du roi, en lui appliquant des traitements inadaptés. Au grand désespoir des valets, les mieux à même de suivre heure par heure la dégradation du corps de leur maître. Comme il avait gagné l'esprit de Madame de Maintenon, personne n'osa parler, et tout le monde devint complice. Louis XIV était parvenu jusque-là à résister aux pires atteintes de la maladie. Dans son enfance et son adolescence, il surmonte avec héroïsme, parmi bien d'autres maux, la variole en 1647, une blénorragie en 1655, une fièvre typhoïde en 1658 qui lui fit perdre une grande partie de ses cheveux et lui imposa le port de la perruque. Outre d'autres graves maladies, Louis XIV souffre tout au long de son règne d'innombrables maux de tête et étourdissements. Mais aussi de calculs, du ténia, de sueurs nocturnes, des maladies chroniques comme la goutte et la colique néphrétique, sans oublier les punaises qui le réveillent la nuit. Le roi souffre aussi de fièvre, en particulier cette récurrente fièvre automnale, d'origine paludéenne, provoquée par la piqûre des moustiques anopheles. Le Versailles marécageux était un espace propice à ce type de pathologie, ces fameuses fièvres tierces ou quartes qui tous les étés mettaient à mal tant de courtisans et de domestiques. Chacun des maux qui le frappe entraîne l'acharnement des médecins à imposer leurs extravagants remèdes, de multiples saignées aux pieds et aux bras, des lavements et autres bouillons purgatifs. Du vin antimoine, du baume de Saturne, du cristal minéral, une décoction de raclure de cornes de cerf et d'ivoire. Des remèdes contenant de l'opium, l'esprit de vitriol, des pommades à base d'essence de fourmis, d'écrevisses et de baume du Pérou, des tablettes d'or diaphorétiques contre la fièvre, sans parler des boutons de feu, cicatrisation au fer rouge que le roi, à plusieurs reprises, fut contraint d'endurer. Une intervention à vif pratiquée par le chirurgien Félix à l'aide d'une lame coupante. Ajoutons qu'en 1685, son palais fut troué à la suite d'une mauvaise extraction dentaire, faisant communiquer les fosses nasales avec la bouche. Louis XIV fait preuve d'un stoïcisme exemplaire, capable d'endurer les pires épreuves imposées par l'impérieuse maison médicale du roi. Son acharnement à survivre est tout autant saisissant. En 1715, pour cette nouvelle maladie, la dernière, les remèdes ne sont guère différents. Fagon ordonne au roi de boire de l'eau de sauge et Maréchal fait des frictions à sa jambe, atteinte soi-disant de sciatique, avec des linges humides et chauds qui semblent apaiser la douleur. Mais on découvre une noirceur sur sa jambe, allant jusqu'au pied. On comprend alors que le mal est beaucoup plus sérieux qu'on ne le croyait jusque-là. Comme à l'accoutumée, Madame de Maintenon et les princesses se rendent dans les appartements du roi. Mais aussitôt après avoir fait entrer les courtisans, le roi les fit sortir parce que ses douleurs augmentaient. Le 24 août, dans la soirée, Louis XIV est atteint d'une grande mélancolie. Le roi vient de comprendre la gravité de son mal. L'agonie royale débute le lendemain, le jour de la Saint-Louis, ce très vénéré roi à qui la chapelle de Versailles est dédiée. « Je ne sens plus tant de douleur à la jambe que de coutume, mais je me sens très faible. Les forces me manquent à tout moment quand je veux un peu me soutenir. » Le roi se prépare à la grande cérémonie des adieux, avec autant de solennité que d'application, malgré son état d'extrême faiblesse. Nécessité de le soutenir, car il s'agit d'assurer la transition de l'après-Louis XIV, de rappeler à chacun ses devoirs, de régler les affaires de l'État et de l'Église et d'agir. Comme si le simple corps s'était déjà retiré de la scène. Le souverain parle déjà de lui-même au passé, du temps que j'étais roi, avec une maîtrise, une autorité et une humanité qui confèrent à ses moments de caractère héroïque. Ce dimanche 25 août, Louis XIV veut que rien ne change aux solennités prévues. À son réveil, les tambours et les hautbois viennent sous sa fenêtre, dans la cour de marbre, et il ne paraît pas importuné par le bruit. Il veut même que les 24 violons et les hautbois jouent dans son antichambre durant son dîner. Il fait alors ouvrir la porte pour mieux les entendre. Durant les deux derniers jours de la vie de Louis XIV, tous les appartements du château de Versailles demeurent fermés. À la demande expresse du souverain mourant, Madame de Maintenon quitte définitivement Versailles le 30 août et s'installe à Saint-Cyr pour n'en revenir jamais. Un jour passe, un autre vient. Vers 11h du soir, le roi est au plus mal et on fait dire la prière des agonisants. En un ultime effort, Louis XIV parvint à la réciter d'une voix si forte, écrit Saint-Simon, qu'elle faisait entendre à travers celle du grand nombre d'ecclésiastiques et de tout ce qui était entré. Le dimanche 1er septembre, au moment où l'horloge de la chapelle neuve frappait 8h15, après quelques petits soupirs et deux hoquets, sans agitation ni convulsion, Louis XIV rendit l'âme, sans aucun effort, comme une chandelle qui s'éteint. Dans cette lente descente aux enfers de son simple corps, promis comme tous les autres corps à la finitude et à la disparition, le vieux souverain a maintenu, envers et contre tout, son autre corps, le corps glorieux et invisible de l'État qui demeurera toujours dans sa continuité dynastique et son inaltérabilité.
Le Louis est mort.
À réécouter sur francemusique.fr.